France Culture.
18h précisément sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Poignée de main, accolade et soutien à l'Ukraine. Réunis à Londres, les dirigeants européens et leurs alliés font front après l'affront infligé par Donald Trump à Volodymyr Zelensky vendredi. Des Européens qui se préparent à défendre l'Ukraine sans le soutien américain et à assurer eux-mêmes leur propre sécurité face à la Russie. Mais comment mutualiser les moyens de défense? L'enjeu est immense et plusieurs hypothèses sont sur la table. La fin de la première phase de trêve dans la bande de Gaza et le retour des tensions. Israël suspend l'aide humanitaire dans l'enclave. Le Hamas dénonce une violation de la trêve. Et puis nous reviendrons sur le résultat des négociations commerciales entre distributeurs et industries agroalimentaires. Elles se sont achevées la nuit dernière. Et si la majorité des prix resteront stables dans les rayons, d'autres vont continuer d'augmenter, nous le verrons. C'est un moment unique pour la sécurité de l'Europe. Les mots du Premier ministre britannique Keir Starmer au début du sommet sur la sécurité à Londres cet après-midi, réunissant une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement européens, mais pas seulement, qui affichent devant les caméras l'unité des alliés et tentent de parler d'une même voix face au risque d'abandon de l'Ukraine par l'allié américain. Volodymyr Zelensky a donc été accueilli chaleureusement par ses homologues. Londres, Paris et Kiev ont annoncé plus tôt dans la matinée travailler ensemble à un plan pour faire cesser les combats entre l'Ukraine et la Russie. Un plan qui doit ensuite être présenté à Donald Trump. Bonsoir Paul Barcelone, vous suivez ce sommet à Londres qui vient tout juste de se terminer.
Oui, sommet terminé à l'instant, plus de 2h30 de discussion à huis clos, un moment unique et historique pour la sécurité de l'Europe selon Keir Starmer. Le Premier ministre britannique doit s'exprimer en conférence de presse dans la soirée. Il s'est entretenu aussi avec Emmanuel Macron en tout début d'après-midi pour évoquer le fameux plan de paix sur lequel planchent la France et le Royaume-Uni pour faire cesser les combats en Ukraine. Pas de détails précis pour l'instant. Selon le président français, il est minuit moins le quart, mais on a encore les cartes en main. Avant un conseil européen jeudi à Bruxelles, le chef de l'État a appelé ces dernières heures à un financement massif de plusieurs milliards d'euros pour bâtir une défense commune. Il s'est dit prêt aussi à ouvrir les discussions sur une dissuasion nucléaire européenne en permettant toujours à la France de décider de sa mise en œuvre, mais pour protéger d'autres pays européens qui ne l'ont pas. Cela rendrait la France plus forte, jure-t-il, en endossant l'un de ses costumes favoris, celui de leader européen.
Paul Barcelone avec Marc Garvenès à Londres, alors face à ce désengagement américain. Le but est de nous préparer au pire, d'y être prêt. Et pour cela, nous devons donc augmenter nos dépenses de défense, prévient à l'instant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui affirme qu'il faut réarmer urgemment l'Europe. Mais comment ? Et surtout, quelles seront les modalités de la future défense de l'Union européenne qui ne pourra peut-être plus compter demain sur le soutien militaire et nucléaire des États-Unis? L'enjeu est immense, résume Sylvain Kahn, professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po et auteur de l'Europe face à l'Ukraine.
Dans la mesure où il est probable, en tous les cas, en ce moment c'est plus le cas, que les États-Unis n'assurent plus la défense du territoire européen en cas de coup dur, ça veut dire qu'il faut effectivement que les Européens s'organisent et suppléent au rôle que jouaient avec eux avant les États-Unis. Donc ça suppose quoi ? D'abord, ça suppose de combler les trous, parce que les Européens ne produisent pas encore la totalité des équipements militaires ou des armes dont une armée qui va être dissuasive vis-à-vis de la Russie a besoin. Il y a des équipements aujourd'hui qui sont systématiquement achetés par les Européens à l'étranger, et en particulier aux États-Unis. Donc, pour être indépendant ou autonome du point de vue militaire, il faut construire ce que les spécialistes appellent une base industrielle et technique de défense, c'est-à-dire se mettre en capacité de produire en Europe tous les équipements, tous les types d'armes dont les Européens peuvent avoir besoin. Ensuite, ça veut dire qu'il faut rendre interopérable l'ensemble des équipements en Europe. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que les Européens se concurrencent à l'export. Chacun essaie de vendre ses avions. Les Suédois, par exemple, qui n'ont rejoint l'OTAN qu'il y a un an et ont été très longtemps, pendant 250 ans, un pays neutre, eh bien, ces 50 dernières années, ils produisent toujours un avion de chasse de poche qui s'appelle le Gripen, qui est très, très apprécié sur tous les marchés. Parce qu'il est très pratique, très petit, etc. Et pourtant, c'était un pays neutre. Donc, vous voyez, si mes informations sont exactes, aux États-Unis, vous avez 4 types types d'avions de chasse. En Europe, il y en a 19.
L'analyse de Sylvain Kahn, invité de France Info et de l'Esprit public d'Hervé Gardette ce matin sur France Culture, à retrouver sur notre site franceculture.fr. Les Européens qui se retrouveront de nouveau jeudi à Bruxelles pour un sommet européen extraordinaire. La présidente du Comité international de la Croix-Rouge appelle à ce que tous les efforts soient faits pour maintenir le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Un cessez-le-feu menacé. Israël veut prolonger la phase 1 de l'accord de trêve malgré l'opposition du Hamas et annonce donc suspendre l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Et dans le même temps, l'armée israélienne multiplie les frappes sur la bande de Gaza. Elles ont fait au moins 4 morts selon le ministère de la Santé gazaoui. Les précisions de Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture.
Depuis ce matin, l'armée israélienne multiplie les attaques sur plusieurs sites de la bande de Gaza, des tirs de l'aviation, de drones et également des bombardements d'artillerie. Ce matin, le bureau du Premier ministre israélien annonçait avoir bloqué tout passage d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Le Hamas parle de crimes de guerre et fait porter sur Israël la responsabilité du sort des otages. C'est ce qu'affirme Hazem Kassem, porte-parole du mouvement islamiste. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, pour sa part, qualifie de mensonge les affirmations sur les risques de famine dans la bande de Gaza. Il s'agit visiblement pour Israël de faire monter la pression sur le Hamas après la fin de la phase 1 de l'accord de trêve. Israël et les États-Unis proposent une prolongation du cessez-le-feu pour la période du Ramadan et de la Pâque juive, avec la restitution immédiate de la moitié des otages toujours retenus à Gaza, morts et vivants. Le Hamas a rejeté ce plan, mais l'Égypte propose une nouvelle médiation.
L'Égypte qui appelle l'Union européenne ce soir à exercer davantage de pression sur Israël pour qu'il applique l'accord de cessez-le-feu à Gaza. 90 000 personnes toujours privées d'électricité à La Réunion, deux jours après le passage du cyclone Garance, cyclone qui a tué 4 personnes sur l'île et balayé de nombreuses infrastructures. 65 000 personnes restent ainsi privées d'eau courante. Après des tractations tendues, grande distribution et industriels de l'agroalimentaire sont parvenus à se mettre d'accord hier soir, quelques heures avant la fin des négociations commerciales qui devaient impérativement se terminer à minuit. Alors à quelques exceptions près, les acteurs du secteur se sont entendus sur les prix de vente des produits pour cette année. Bonsoir Héloïse Weiss.
Bonsoir.
Malgré des tensions dans ces négociations, globalement, le prix des produits en rayon restera donc stable en 2025.
Ouais, il sera même bénéfique aux consommateurs, c'est ce que promet aujourd'hui la Fédération patronale des supermarchés, la FCD, qui n'en dit en revanche pas davantage sur le contenu de ces accords, même si certains aliments subiront mécaniquement une hausse des prix, c'est ce que prévoit Philippe Goetzmann, consultant spécialiste de la grande distribution.
Vous avez vu ces derniers temps notamment des choses telles que le café ou le chocolat qui ont connu des hausses fortes, ou le jus d'orange. Et il n'y a pas de raison que ces prix se détendent. Comme les industriels, pour beaucoup, étaient contraints par les tarifs jusqu'à récemment, jusqu'à maintenant, étaient contraints par les tarifs négociés il y a un an avant un certain nombre de hausses, il est à peu près certain que ces catégories-là vont connaître des hausses.
À l'inverse donc, et c'est le jeu des négociations, certains produits devraient voir leurs tarifs baisser, comme l'huile d'olive, le sucre ou le blé.
Héloïse, si tous les accords sont quasiment signés, ces négociations étaient extrêmement tendues entre les deux parties.
C'est souvent le cas en fait entre la grande distribution et les fournisseurs. La grande distribution voulait obtenir une baisse des prix d'achat des produits, quand les fournisseurs réclamaient une hausse. La Fédération patronale des supermarchés s'est d'ailleurs exprimée à l'issue de ces négociations. Elle estime que les grandes multinationales ont joué la montre ces 10 derniers jours, quand les contrats avec les petites et les moyennes entreprises étaient déjà signés. De son côté, en début de semaine, ILEC, qui représente les grandes marques de l'agroalimentaire, parlait quant à elle d'un refus total d'accéder aux demandes des industriels. Elle disait aussi ne compter que 10% de signatures d'accord à 48 heures de la fin des négociations.
Héloïse Weiss, le Salon international de l'agriculture referme ses portes ce soir à Paris. Une édition 2025 plus apaisée que l'année dernière, malgré une colère toujours vive chez les agriculteurs. Les organisateurs se félicitent de la belle fréquentation avec précisément 607 503 visiteurs cette année, soit une fréquentation en légère hausse par rapport à 2024. La météo avec un temps sec et nuageux attendu au réveil demain sur la moitié sud et particulièrement sur le Roussillon où des ondées sont attendues. Ailleurs, ce sont les éclaircies qui domineront sous des températures fraîches. Comptez moins 4 à 0 degrés sur la moitié nord, 0 à 4 sur le sud-ouest et jusqu'à 9 degrés aux abords de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau, Alex Dang à la technique.